région, forcément, le foot féminin est quand même en baisse, que ce soit de considération comme de fréquentation aussi. Des joueuses qui perdent justement cette volonté et cet enthousiasme à jouer dans une région qui a un fort potentiel. Aujourd'hui, bah, par exemple, le Stade de Reims qui perd 5-0 face à Mulhouse, et sur la feuille de match, il y a 12 joueuses. Ça montre un petit peu que l'effectif est assez réduit. Beaucoup de joueuses qui viennent de régions parisiennes ou de Lyon, et puis certaines du centre de formation malgré tout, certaines qui reviennent jouer au Stade de Reims. Donc quelle est la promesse derrière ça, je ne sais pas. Néanmoins, il y a d'autres projets à côté. Aujourd'hui, il y a quand même 11 équipes dans la région et un petit peu plus largement engagées dans le championnat R2, qui a été totalement remanié par le fait qu'il y a de moins en moins d'équipes. Il y a eu complètement un remaniement dans le championnat, ce qui nous amène d'ailleurs à avoir des poules de 6 voire 5 équipes.
Ça va faire des beaux calendriers, ça.
On aura beaucoup de week-ends, quoi. mais en tout cas, bon, c'est pensé pour le développement du football féminin.
Que la formule, c'est juste un match aller-retour entre chaque ou...
Alors la formule, c'est pour le moment, c'est donc un match aller-retour jusqu'à la période de décembre.
Ouais.
On va dire que c'est comme une, ça donne accès à un régional 2 élite.
Ouais, d'accord.
Les deux
Selon les classements, après on refait un deuxième championnat, en fait. Ouais.
Donc toutes celles qui auront fini en dessous des deux premières resteront dans un championnat unique R2, et celles qui auront réussi à décrocher la première ou la deuxième place monteront dans le championnat R2 élite pour pouvoir prétendre à monter en R1. Voilà. Bon, ce qui amènera par contre à des très 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 gros déplacements, et c'est là où encore une fois on se sent un peu démuni, parce que les gros déplacements impliquent aussi des gros coûts,
et, oui,
et certains clubs malheureusement ne
c'est
sont
des
pas
moyens.
Voilà, c'est ça.
Tout à fait. Et puis peut-être des différences de niveau entre quelques équipes. Bon, voilà. J'ai l'impression qu'on revient quand même 15 ans en arrière là. Dans cette histoire, je sais pas si t'as ce sentiment là dans la considération qu'on a fait. On a voulu tout professionnaliser sans trop vraiment structurer, et du coup j'ai l'impression qu'on repart un peu à zéro, quoi.
C'est ça, je pense qu'on a peut-être été un peu trop vite. On a peut-être pas pris exemple sur des pays voisins qui se développent bien mieux, mais peut-être bien plus doucement, mais en tout cas qui mettent les moyens pour les femmes de pouvoir se libérer aussi de divers sentiments ressentis dans le football. Mais bon,
question de volonté et volonté politique parfois. Donc nous ici sur RGR, le foot féminin n'est pas mort, donc on continuera d'en parler, on en fait l'engagement et on essaiera de vous donner à minima les résultats et d'avoir quelques infos à vous partager dès lors qu'on en aura. Forcément, quand c'est de la R1 et de la R2, je vous cache pas que c'est un peu plus dur pour nous d'avoir les infos, mais avec vous, nul doute qu'on pourra les partager. D'ailleurs, vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à nous écrire via les réseaux sociaux notamment. Vous tapez Sport Club Reims et vous allez évidemment nous trouver. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, donc on vous remercie. Ben voilà, on arrive à la fin de cette heure. On avait pris l'antenne en retard, donc on l'a en retard, il n'y a aucun problème là-dessus. Ça y est, la première est passée. C'était bien?
C'était super.
Bravo Marie, merci beaucoup. Chérif, pareil, c'était quoi tes impressions ce soir?
Très bonne émission, j'ai bien aimé. Je trouve que t'as été très très bon dans ton animation. Merci beaucoup.
Ça me flatte, merci beaucoup. T'as le droit de revenir la semaine prochaine pour la peine, vous êtes mon équipe titulaire.
Je reviendrai.
Gauthier, merci aussi. Merci pour cette première.
Difficile, dans le dur, mais on va y arriver. Ça va le faire, c'est toujours comme ça.
Les meilleures équipes ont toujours eu une période de rodage, on est encore un peu en fin de prépa, quoi.
C'est ça, mais ça va le faire.
Les amis, restez avec nous parce que dans quelques instants, on va passer à l'heure Omnisport. Je vois quelques anciennes voix que vous allez retrouver avec grand plaisir. Margot, Martin, qui vont prendre vos places, les amis, dans ce studio pour parler Omnisport. L'occasion de récapituler quelques résultats et d'échanger avec quelques athlètes. Jeanne Anissé, on l'aura par téléphone parce qu'il n'est pas sur Reims, mais on va revenir sur l'été qu'il a passé, lui qui est désormais médaillé aussi sur les championnats d'été, les championnats élites d'athlétisme. On devrait avoir également, si tout va bien, Eve Dubec, également la patineuse en patinage artistique du club de patinage artistique de Reims. Et puis ce sera l'occasion avec elle de parler à la fois de santé mentale, parce que autant Eve Dubec, elle performe, mais vous avez peut-être vu que Laurine Schild, celle qui a représenté la France et Reims brillamment aux Jeux Olympiques, a décidé de mettre entre parenthèses sa carrière. Et c'est peut-être un vrai sujet dont on parle pas assez. La santé mentale, est-ce qu'aujourd'hui, enfin, on peut libérer cette parole-là? Est-ce qu'on continue de regarder les athlètes comme des gens un peu fragiles à l'idée de se dire que c'est compliqué et on préfère mettre une parenthèse? En tout cas, c'est un choix courageux qu'elle a fait et on en parlera d'ici 21h. Les promos dans quelques secondes et place à la deuxième heure. A tout de suite. Merci les amis.
RJR 106.1 Culture Geek. Valentin sur RJR.
Culture Geek, c'est votre rendez-vous hebdomadaire sur l'actualité geek, informatique, numérique, technologie, jeux vidéo, internet et gadgets. Le meilleur de l'information geek condensé en 10 minutes, c'est tous les vendredis à 17h sur RJR.
La ville de Reims organise le Forum des Assos au Parc des Expositions de Reims le samedi 5 septembre de 14h à 19h et le dimanche 6 septembre de 14h à 18h. Avec plus de 300 associations présentes au Forum des Associations de Reims, c'est l'occasion de découvrir, de tester ou de s'inscrire à des activités culturelles, sociales ou sportives. Entrée gratuite, plus d'infos sur reims.fr.
Suivez le Stade de Reims dans le championnat de Ligue 2 BKT. Samedi 5 septembre à 14h, le Stade de Reims reçoit Guingamp au Stade Auguste Delaune. Réservez vos places à la boutique officielle du club ou en ligne sur billetterie.stade-2-reims.com.
Les artistes régionaux ont leur radio. RJR, Arsène.
Ce soir, je prends un VTC. Je descends sur ta rue. Donne-moi une heure ou deux et je suis à l'adresse qu'on a dit.
MAO Corps Montreuil.
Ove. C'est étrange, un démon est tombé pour un ange. Tout n'est pas carré dans les angles. L'amour et la haine se mélangent.
Les artistes régionaux ont leur radio. RJR. Radio Jeune Reims.
J'y arriverai pas. J'ai peur de tout perdre. J'ai peur de tout foirer. J'ai essayé sans fois. J'ai fait pleurer papa. Maman dit que ça va aller. Aujourd'hui je me sens pas fraîche. Je veux traîner qu'en survette. Ne plus répondre au tel. Dans le noir pleurer sur du tchoule. Effacer les SMS que je garde depuis 2017. Stalker l'ex de mon ex et regretter de pas être une pouffe. Elle est passée où la petite fille dans ma tête. Qui donnait des crampons joue à ceux qui ont le cœur en miettes. Qui disait que l'amour survit même aux tempêtes. Qu'il faut lui au secours des gens qui croient les faux discours. Elle est passée où la petite fille dans ma tête. Qui donnait des crampons joue à ceux qui ont le cœur en miettes. Qui disait que l'amour survit même aux tempêtes. Qui rêvait tous les jours que ça finisse sur une traîne. Tout ça c'est fini. Je veux plus être gentil. C'est pas assez bien payé. J'ai romancé ma vie. J'ai regardé trop de films. Pourquoi on m'a pas spoilé, spoilé, spoilé. Je veux plus parler à personne. Je veux plus sortir de mon lit. Mon prochain date avec un homme, ce sera une commande Uber Eats. J'ai brûlé ses t-shirts. J'ai vendu son ordi. J'ai unfollow sa grosse daronne qui met des cœurs sur mes stories. Elle est passée où la petite fille dans ma tête. Qui donnait des crampons aux joues à ceux qui ont le cœur en miettes. Qui disait que l'amour survit même aux tempêtes. Qu'il faut lire au secours des gens qui croient les faux discours. Elle est passée où la petite fille dans ma tête. Qui donnait des crampons aux joues à ceux qui ont le cœur en miettes. Qui disait que l'amour survit même aux tempêtes. Qui rêvait tous les jours que ça finisse.
RJR.
RJR. que tu portes mon nom de famille. Mais ça prend du temps. J'ai même parlé de notre avenir à tes parents, mais ils m'ont dit d'attendre. J'ai fait tout ce que ton père m'a dit, mais il est jamais content. Et s'il décide d'être l'ennemi de notre amour, il sera forcé d'entendre. Quand je briserai les chaînes comme Django, Django. Je briserai les chaînes comme Django, Django. Je briserai les chaînes comme Django, Django. Je briserai les chaînes comme Django, Django.
Il veut nous éloigner. Donc il sort toutes sortes de foutaises. Et quand je lui demande quel genre d'homme il te faut, il me dit comme toi mais pas toi. Laisse-moi le calmer. Il faut que son cœur s'apaise. Laisse-moi lui montrer qu'il a tort de penser qu'un autre t'aimera bien plus que moi. Il veut que tu te maries, que tu fondes une famille avec n'importe quel autre homme que moi. Il me voit comme celui qui vient lui voler sa fille pour te retenir. Il abuse de ses droits. Je veux bien être gentil, papa, mais même toi tu peux pas nous bloquer. Donc on va parler d'homme à homme car c'est ma vie là et tu m'empêches d'avancer. Je veux que tu portes mon nom de famille. Ça prend du temps. J'ai même parlé de notre avenir à tes parents, mais ils m'ont dit d'attendre. J'ai fait tout ce que ton père m'a dit, mais il est jamais content. Et s'il décide d'être l'ennemi de notre amour, il sera forcé d'entendre. Quand je briserai les chaînes comme Django, Django. Je briserai les chaînes comme Django, Django. Je briserai les chaînes comme Django, Django. Je briserai les chaînes comme Django, Django.
Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir dans son cœur une place? J'ai fait l'impossible pour que ce soit possible. Il me voit comme un bon à rien, mais dis-lui que je suis bon dans tout ce que je fais. Dans ma vie, je sais où je vais. Contre ses choix, je refuse, je m'impose. C'est toi mon choix et pas une autre. Laisse-le croire qu'on foncera droit dans un mur. Change pas d'avis de nous, je suis sûr. Dis à ta mère, je prendrai soin de toi avec ou sans son accord. L'affaire, je lâcherai pas. Je compte pas t'abandonner. Sache que
je veux que tu portes mon nom de famille. Mais ça prend du temps. J'ai parlé de notre avenir à tes parents, mais ils m'ont dit d'attendre. J'ai fait tout ce que ton père m'a dit, mais il est jamais content. Et s'il décide d'être l'ennemi de notre amour, il sera forcé d'entendre. Quand je briserai les chaînes comme Django, Django. Je briserai les chaînes comme Django, Django. Je briserai les chaînes comme Django, Django. Je briserai les chaînes comme Django, Django.
Paniquer, il ne faut pas paniquer, non. C'est qu'une épreuve à traverser avant l'arrivée. Baby, même s'il veut pas valider, c'est qu'une épreuve à traverser avant l'arrivée. Django, Django. Briser les chaînes comme Django, Django. Brille les chaînes comme Django, Django, yeah, oh.
Sport Club.
Il n'y a pas eu vrai débat.
Le talk.
J'ai trouvé que c'était un débat très intéressant.
Et on est de retour dans les studios de Radio Jeune Reims. Plaisir de vous accueillir pour la première, deuxième heure de la saison. Nous sommes le 31 août, on est à la veille, ça y est, hein, de la rentrée. Je sais que c'est un petit stress pour beaucoup, mais là, oubliez tout pendant une heure, on va passer un bon moment tous ensemble. Et ça va être le cas comme ça toute l'année. Voilà, quelle que soit la signification du lundi, même les jours fériés, on sera là, même pendant les vacances, on est là. Enfin bref, on sera là tous les lundis. Plaisir de retrouver quelques voix que vous aviez déjà plaisir à entendre la saison dernière. C'est le cas de Margot. Tout le monde nous réclame Margot. Salut Margot.
Ah bon. Bonsoir à tous.
Margot.
Merci.
Et donc Martin, vous venez l'entendre aussi. Salut Martin.
Bonsoir.
Bon, j'espère que l'été s'est bien passé avec pas mal d'aventures. Est-ce qu'on peut dire qu'il était sportif ton été, Margot?
Oui, il était très sportif et il était très agréable. Je suis partie faire la partie espagnole du chemin de Compostelle.
ce qu'on appelle le Camino Frances. Et c'est quelque chose que je recommande à tous ceux qui souhaitent le faire. En fait, n'hésitez pas, allez-y, foncez.
Ça nécessite une préparation quand même ou...
Moi, j'en avais pas forcément. Après, je cours régulièrement. Oui. Voilà, et... Mais voilà, faut juste être un peu entraîné au chaud peut-être. Ou alors aimer se lever très tôt le matin et partir.
Ceci dit, on a eu les mêmes températures ici. Hein.
Je pense que c'était même plus agréable en Espagne qu'en France.
Très bien.
La dernière vague était en tout cas plus douce.
Vous savez quoi, on va se rafraîchir un petit peu tout à l'heure dans une deuxième partie de l'émission parce qu'on va parler de patinage artistique avec l'une de nos invitées qu'on a vraiment plaisir là aussi à retrouver, à accueillir dans ses studios. C'est Eve Dubec. Salut Eve.
Bonsoir.
Tout va bien pour toi?
Bah oui, tout va bien. La saison a commencé, ça y est.
Et bien commencé.
Oui, plutôt bien.
On y reviendra dans quelques instants. Toi qui, alors, c'était pas un gros déplacement, c'est Louviers, c'est où, la Normandie?
Louviers, oui, la Normandie, ça va.
Ça fait combien d'heures de route, ça?
3 heures.
Oh, facile.
Oui.
Enfin, ceci dit, 3 heures pour 4 minutes de programme, ça fait cher le déplacement.
4 minutes plus 3 minutes, oui, plus les 6 minutes, les entraînements. Bon.
Pardon. Je retire tout ce que j'ai dit. Les amis, dans quelques instants, on va parler athlétisme aussi, puisqu'on voulait faire un point avec quelqu'un qui a un peu marqué à sa façon l'été. Et il y a eu notamment, entre autres, les championnats de France élite d'athlétisme. Il y avait beaucoup de représentants et au final, pas tant de médailles que ça, mais une en particulier, celle de Jeanne Anissé, qu'on avait eu l'année dernière après les championnats de France. Mais vous vous souvenez, en salle, en indoor, il performe aussi en plein air avec des temps... lui, il court le 200 mètres en 21 secondes, quoi.
Pile poil.
Voilà, moi rien que d'y penser, point de côté et déchirure de la cuisse, donc vaut mieux que ce soit lui qui nous en parle. On l'aura avec nous par téléphone, et puis on a toujours cette coutume, vous savez, de récapituler quelques résultats sportifs du week-end. Alors on va faire ça de façon non exhaustive. Vous allez sur sportclub-reims.fr, vous le savez, c'est votre bible, donc ça c'est une première chose. Et la deuxième, c'est qu'on est encore fin août, donc il n'y a pas non plus 1000 trucs à annoncer. Le temps de mettre rapidement le petit jingle qui va bien là, et puis c'est parti hein.
Sport Club. L'actu sport.
On est tellement organisé qu'on est en train de se demander entre deux jingles comment on s'organise pour faire.
Il faut pas tout dire, Julien.
Ah bah non, mais non, mais je ne sais pas mentir.
Très pro, très pro.
Trop honnête peut-être surtout. Margot, ça se prépare. Donc je le disais, tout le monde n'a pas encore repris la compétition comme Eve et Inès, dont on parlera évidemment aussi tout à l'heure. En basket par exemple, on se prépare parce que le basket traditionnellement ça reprend un petit peu plus tard. Et la préparation pour l'instant c'est cool hein, pour les deux équipes marnaises.
En amical ça se passe très très bien. En Pro B, le champagne basket mène 83-78 face à Denain dans leur match de préparation.
T'as et, Coubertin à Chalon, oui.
Le champagne basket féminin l'emporte 73-49 face à Rouen.
Voilà, les filles du champagne basket féminin que j'ai eu l'occasion de croiser au parc de Champagne samedi après-midi à l'occasion du festivité, et elles ne savent pas que jouer au basket. Mmh. Elles savent faire du tir à la carabine, elles savent faire plein de choses.
Très
polyvalentes. Sur des reconversions de carrière éventuellement. Il y a quelques-unes qui peuvent penser à des trucs sympas. Là où on reprend, alors on est entre... Alors c'est des matchs officiels.
C'est officiel quand même.
C'est Coupe des matchs de officiels, oui. C'est vrai. Mais souvent, on considère ces matchs de Coupe de France comme un dernier match de préparation. Bien sûr. Parle de handball. Les deux équipes de Reims et de l'agglomération rémoise étaient engagées. Saint-Brice chez les garçons, Reims chez les filles. Et fortune diverse, malheureusement.
Oui, mais dans tous les cas, c'est un écart de 2 points. 32-30 pour les gars de Saint-Brice face à Épernay. Et malheureusement, perdu 24-22 pour les filles au Reims Champagne Handball.
Voilà, à Rosières-Saint-Julien. Ah. Ce prénom qui porte la poisse. Dans l'aube, comme ça, ils n'auront que la N2. Alors, il faut savoir que le Reims Champagne Handball, il y a énormément de changements. Hein. Saint-Brice l'avait vécu la saison précédente. Saint-Brice qui évoluera toujours en National 1, le RCH en National 2, avec beaucoup, beaucoup de joueuses qui sont parties. Et notamment la meilleure joueuse, Samia Adam, qui jouait, tiens, dans l'équipe d'en face samedi soir et qui a marqué 6 buts. Bien, il y avait du cyclisme également ce week-end avec les championnats du monde. En Italie.
Oui, les championnats du monde de VTT, Joshua Dubo était engagé. Et ça a été une course compliquée pour lui. Il a d'abord été, par exemple, gêné par le trafic. Et puis après, il est remonté jusqu'à la 34e place. Mais il a finalement cédé physiquement. C'est le Britannique Tom Pidcock qui l'emporte, je crois.
Yes, for sure.
For sure.
Bon, bah voilà, bon, bravo à Joshua Dubois. On savait que la concurrence était rude. Le premier français, il y avait pas mal de français engagés, fini 5e, je crois. Donc voilà, bon, bravo évidemment à tous, parce que faire des tours comme ça de VTT sur des circuits exigeants, je préfère les regarder faire. Dernier résultat qui vient de tomber là, il y a quelques instants, quelques minutes. On suivait également la rémoise Angelica Berio. Elle est elle également en Italie, à Tirante. J'espère que je prononce bien, je parle pas trop italien.
Bravo, bravo.
Bravissimo. C'est les Jeux méditerranéens, comme son nom l'indique, ça concerne, c'est une sorte de Jeux olympiques pour tous les pays qui touchent la Méditerranée, quoi. Je peux pas dire beaucoup plus. Bon voilà, donc elle était engagée évidemment dans sa spécialité, le saut en longueur. Elle termine 5e de la compétition, donc pas de médaille pour la Française, qui termine avec un saut modeste. Je regarde 6m34, c'est presque dommage, a priori je regarde un petit peu, là il y avait un peu de vent, donc je ne sais pas si c'est ce qui l'a perturbé. Ça se gagne à 6,59, c'est une Chypriote qui a remporté le concours, sachant que son record de saison est à 6,63, c'était dans ses cordes. Donc peut-être un peu de regret, bon, on lui posera la question, peut-être la semaine prochaine.
Pourquoi pas.
Dans le talk de Sport Club, 20h passées de 20 minutes, le temps de s'écouter les Naïgs, on appelle Jeanne Anissé. Encore de l'athlétisme. Et on revient juste après, à tout de suite.
Ça devient difficile de prouver que l'on s'aime. Tu rends ma vie impossible, tu vis dans les extrêmes. On se déteste encore, mais moi je t'aime à mort. Ouais. J'ai perdu la notion du temps, t'as volé mon présent. Même si je sais que plus rien n'a de sens, non plus rien n'a de sens, je te veux toi. Même si je sais que plus rien n'a de sens, mais pourquoi? Pourquoi je pense à toi? Ça me réveille parfois, la nuit quand je dors, je ne pense qu'à ça. J'ai trouvé mon or, j'ai trouvé ma voie, mon but, mon trésor, je crois que c'est toi. T'adore, ouais. J'étouffe sous le poids de tes mots, t'as brisé mon ego. Même si je sais que plus rien n'a de sens, non plus rien n'a de sens, je te veux toi. Même si je sais que plus rien n'a de sens, mais pourquoi? Pourquoi je pense à toi? Ça me réveille parfois, la nuit quand je dors, je ne pense qu'à ça. T'as braqué mon cœur, t'étais tout pour moi. Ma plus grosse erreur, je crois que c'est toi.
Sport Club.
Il n'y a pas eu de vrai débat.
Le talk.
J'ai trouvé que c'était un débat très intéressant.
Oui, on est là, 20h passées de 22 minutes. Vous écoutez le Talk de Sport Club. C'est la première de la saison, la 16e saison du Talk de Sport Club. On est très heureux de vous accompagner à nouveau sur cette année 2026-2027. Et merci de votre fidélité, parce que 16 ans, c'est un bel âge. Mais si vous n'étiez pas là, on ne serait pas là non plus. Donc merci beaucoup de votre fidélité pour donner, parce que c'est ça en fait notre ADN, la parole aux acteurs, aux athlètes du territoire. On est très heureux de le faire avec Eve qui est avec nous dans les studios, bien installée. Oui. Pas trop chaud, pas trop froid, on est bien là.
Parfait.
Je ne sais pas si c'est le cas des Jeanne Anissé. En vérité, je ne sais pas où il est. Donc, mais il n'est pas dans les studios, ça c'est sûr. Qui doit nous entendre parce qu'il est avec nous par téléphone.
Oui, j'entends bien. Bonsoir.
Salut champion, comment ça va?
Salut,
vous? Nous, on est très heureux de t'avoir au téléphone. Merci de faire partie des premiers invités de cette nouvelle saison. En vérité, on voulait prendre de tes nouvelles. Alors, c'est vrai que maintenant, les championnats de France élite en plein air, en athlée, pour toi, ça commence à remonter à quelques semaines. Hein, donc, c'est un peu derrière. Mais justement, c'est peut-être la première question que j'ai envie de te poser avant que les copains Martin, Margot t'interrogent également. Comment t'évalues ton été, toi, du coup?
Mon été, globalement, sur le plan sportif, on va dire que, en termes de performance, c'est pas très ouf, on va dire. J'ai pas couru très très vite cette année, mais j'ai quand même réussi à faire une médaille aux France, donc bon, ça fait quand même du bien au moral. Ouais. Après, les chronos que j'ai pu faire cette saison n'étaient pas trop corrects par rapport à mes objectifs.
T'es descendu à 20,56 quand même, même si le vent a un peu poussé là en Belgique.
Ouais, je suis dans un 56, mais ouais, il y avait quand même du vent. C'est
je crois que c'était un plus 3-3, ouais, je suis pas sûr qu'il ait été homologué d'ailleurs.
Ouais, non, c'était beaucoup trop monté. Et du coup, voilà. Mais ouais, du coup, je dis ça parce qu'en fait, j'étais vraiment loin des objectifs qui étaient fixés. Et du coup, voilà. Mais après, j'ai quand même pu faire une médaille. Donc, en vrai, ça avait quand même du bien de faire une médaille sur un championnat. Après, dans les championnats, l'important, c'est la place. Mais c'est vrai que le chrono, il compte vraiment beaucoup pour moi parce que ça reflète quand même beaucoup de choses. Et aussi, il y avait des grands championnats comme les chemins d'Europe où il y avait des minima à réaliser. Et donc, voilà. C'est pour ça que j'étais pas trop satisfait en termes de chrono.
Un peu de frustration, c'est le mot. 21-0-0, d'ailleurs, sur la finale du 200 mètres, qui te permet d'aller chercher pour rien un centième de seconde la médaille de bronze. Avec, j'ai regardé ça là, tout à l'heure en préparant l'émission.
Et moi aussi, j'ai regardé la course.
Et le temps de réaction, qui est le plus mauvais temps de réaction au départ. C'est ça qui te laisse des regrets ou comment tu l'analyses en fait, toi, cette finale, Jehan?
Franchement, je ne sais pas trop. Je me rappelle même plus de la course, on va dire. Et le seul truc que je sais, c'est qu'en fait, je sais que globalement, c'est pas allé très vite. Et après, en termes de regrets, je pense que oui, j'ai quand même des regrets au niveau des chronos parce que je pensais que j'allais beaucoup plus vite qu'en série. Parce qu'en série,
domines largement la course.
20-98.
Je domine la course, mais ouais, ça n'allait pas non plus trop vite en série, mais je m'attendais à aller un peu plus vite en finale, mais je sais pas. Je sais ce que c'était les conditions, je sais pas. Je sais qu'il y avait du vent, je ne sais pas. Mais ouais, en termes de chrono, c'est vrai que malheureusement, j'ai pas pu l'améliorer en finale. Mais...
Alors, voilà. C'est vrai qu'on va trouver des circonstances atténuantes.
Ouais, les conditions n'étaient pas dingues.
Il y avait vent de face quand même.
Oui.
C'est ça, ouais.
Bon, on t'aide un peu à te réconforter quelques semaines après.
C'était compliqué sur les deux jours, surtout sur le 100 mètres, sur le 100 mètres et le 200. Bah, après, la veille sur le 100 mètres, il y avait du vent et aussi de la pluie. Le temps, c'était compliqué.
Ouais, c'était Albi.
Et sur le 200, c'était un peu plus bon le lendemain, mais c'était compliqué quand même parce qu'on sentait quand même que sur les courses, ça courait pas vite en fait. Le série, ça allait pas très vite.
Le fait de doubler 100-200, au final, ça t'a rendu service ou pas? Je me souviens que lors d'une dernière émission, ça remonte à 2025, tu nous expliquais, c'était après les championnats indoor, que t'étais un homme de championnat dans le sens où t'avais besoin des séries, tu sais, de monter un peu en gamme, de monter en rythme. Bon, là, je m'étais dit, bon, il fait 10-51 sur 100 mètres, ça monte en puissance, il gagne sa série du 200.
Ouais, sachant que j'ai eu deux courses avant de faire mon 200, j'ai eu les séries du 100, j'ai fait 10-36 par là, ou 10-30 quelque chose, et après j'ai fait 10-51 demi-finale. Ça m'a quand même servi, parce qu'en fait c'était quand même la première fois qu'aux élites je faisais le 100 mètres. D'habitude je fais jamais le 100 mètres aux élites, je fais toujours le 200, donc là ça m'a permis de rentrer dans ma compète, d'être focus sur ce que je voulais faire, et aussi que j'ai besoin un peu de ce que je me prépare pour mon 200 justement du dimanche. Parce que c'est l'objectif, c'est surtout le 200 mètres. Mais ouais, ça m'a quand même servi pour me rentrer dans la compète. Après, est-ce que ça m'a servi défavorablement par rapport à ma condition physique, je sais pas.
C'est un truc que tu as discuté avec Atim à la fin?
Bah pas vraiment, en fait c'était prévu que de base que je fasse 100 sur le 100 mètres et le 200 mètres. Sur toute la saison en fait on a déjà discuté de ça, sur toute la saison j'ai doublé, j'ai fait le 100 mètres, à chaque combat je faisais 100 mètres et le 200 mètres. J'étais pour me préparer pour qu'au France j'arrive prêt pour enchaîner les courses et que je puisse enchaîner les chronos ou au niveau. Et du coup en fait c'était l'objectif globalement. Donc en fait c'est pour ça que techniquement en fait... c'était fait pour que je sois bien sur le 200 mètres surtout. Et que pourquoi pas, j'allais chercher des chronos sur le 100 mètres et sur le 200.
Ça joue vraiment à rien, hein, parce que la médaille d'argent a été à un centième.
Et justement, je vais rebondir là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de l'attitude de Zézé, qui s'est relevé avant la ligne justement?
J'ai rien à dire, franchement.
T'aurais pu le passer? Enfin, c'était le moment, justement.
Je vais pas vous mentir, je savais même pas, parce qu'en fait, quand je cours, je vois pas vraiment. Je savais qu'il y avait du monde devant moi, et je savais que c'était assez serré. C'est après, en remisant dans les courses, que j'ai vu que, voilà. Mais non, en vrai, j'ai vraiment rien à dire. Après, c'est une course, c'était à moi d'aller plus vite. c'est à moi aussi peut-être mieux casser. Si j'avais peut-être mieux cassé, peut-être que j'aurais pu passer devant. Si j'avais peut-être couru plus vite, peut-être que j'aurais pu passer devant. Donc en vrai, sur ça, je peux pas vraiment parler d'une mauvaise attitude, parce qu'en fait, il a fait sa course, j'ai fait ma course, et si je devais faire quelque chose de mieux, bah, j'aurais dû techniquement aller plus vite de moi-même.
C'est vrai que finalement, entre le 100 et le 200 mètres, évidemment, c'est le double de la distance, mais surtout, il y a un virage à négocier en plus. Qu'est-ce que ça change dans ton entraînement par rapport à ça? Est-ce que, par exemple, aussi, j'ai une autre question. Est-ce que tu as beaucoup d'autres de concurrents, d'adversaires qui font aussi la double distance en compétition avec toi?
Oui, ouais. Okay. Globalement, oui, j'ai quand même beaucoup d'adversaires qui... On s'entraîne pas ensemble, mais on se voit régulièrement en compète, okay, sur la saison, on va dire. Et après, on se retrouve lors des grands championnats comme le championnat de France, voilà, ou des meetings, des grands meetings nationaux. Mais oui, en vrai, ça, le 200 mètres, c'est très technique. En vrai, il y a un virage à négocier, il y a une sortie de virage à négocier, il y a une fin de course à négocier. Donc en vrai, c'est après moi, c'est ma distance préférée parce qu'en fait cette distance là elle me permet de gagner en vitesse et pourquoi pas de faire de meilleurs temps, parce que le 100 mètres c'est un peu plus court et moi je suis pas très fort au départ, donc ça me permet d'aller plus vite et de faire de meilleurs chronos.
Et Julien, il parlait du temps de réaction et toi tu dis que t'es pas très bon au départ. Est-ce que c'est la crainte de la disqualification ou c'est quelque chose qui doit se travailler encore?
Je pense qu'en fait le temps de réaction, effectivement je peux avoir un bon temps de réaction. Si j'ai eu un mauvais temps de réaction, c'est parce que j'ai peut-être poussé un petit peu trop sur mon bloc. Et comme en fait sur les blocs des Chemins de France, il y a des capteurs, en fait techniquement si on pousse beaucoup sur le bloc, forcément on aura un gros temps de réaction. Donc en vrai ça dépend en fait, c'est-à-dire que peut-être que j'étais le dernier à réagir en termes de voilà, mais je sais pas si je vais dire que j'ai vraiment beaucoup perdu, parce que en fait ça se trouve après je me rappelle plus trop de la course, ça date un petit peu, mais ça se trouve en fait j'ai peut-être beaucoup poussé sur le bloc et ce qui a fait que j'ai eu un gros temps de réaction. Peut-être que si par exemple j'avais moins poussé sur mon bloc,
poussé moins longtemps là,
voilà, si j'avais poussé moins longtemps et j'étais beaucoup plus bref sur l'appui, peut-être que mon temps de réaction était beaucoup plus faible. Et après, ça ne veut pas trop dire non plus quelque chose sur le 200, parce que sur le 200 mètres, on a vraiment le temps de faire notre retard. C'est assez long. Mmh. Après, sur le 100 mètres, ça peut beaucoup changer, parce que le 100 mètres, il faut avoir un bon départ. Si tu rates ton départ, le reste de la course, c'est compliqué.
C'est vrai que là, on rentre un peu dans la technique pour les gens qui ne suivent pas particulièrement l'athlétisme et particulièrement le sprint, mais on comprend que ça se joue vraiment à des détails, hein, parce que là, ça se joue vraiment au dixième, voire au centième de seconde. C'est vrai que là, tu parles de pas mal de choses, la puissance, la vitesse, la capacité à se relever progressivement. Margot en parlait, la gestion du virage sur le 200 mètres. Tout ça, c'est une succession de petits détails qui, à haut niveau, font toujours la différence au final. C'est ça qui est terrible. Hein.
Exactement, ouais, c'est malheureusement, c'est ça. Le sport, surtout dans l'athlétisme, dans les courses, ça peut vite aller, les chronos ils peuvent monter, ça peut aller très vite. Il suffit qu'il y ait du vent, il suffit qu'il y ait un appui qui est mal mis, même un départ qui est peut-être raté ou une sortie de virage ratée. Et je pense peut-être foiré par rapport à ça.
Et est-ce que tu accordes une importance au choix du couloir? Est-ce que tu as des préférences? Est-ce que...
Couloir 1 sur 200 mètres, c'est relou. Hein.
C'est compliqué. Moi, j'ai déjà fait, mais c'est compliqué. J'ai déjà fait couloir 1, mais c'est vrai que c'est pas le meilleur couloir, surtout même en intérieur. Hein, c'est pas du tout le meilleur couloir.
4, 5, 6, c'est parfait.
Là, hein. De mémoire, je crois que tu étais dans le 5.
Ouais, c'était le 5. Ouais.
Ouais, j'étais au milieu, donc en vrai, ça allait.
Oui, parce que tu avais la. L'avantage d'avoir gagné ta série. Donc,
ma série, c'est ça, exactement. Le couloir, il compte beaucoup, c'est vrai.
Ah bah oui, c'est sûr. Tu parlais tout à l'heure, sans trop en parler, du pic de forme. Ça, c'est intéressant pour que les gens comprennent comment on fait pour être présent. Et peut-être qu'Ève, elle pourra répondre à ça aussi, même si les compétitions sont différentes en patinage artistique et en athlétisme de fait. Comment on fait pour répondre présent au bon moment? C'est-à-dire d'avoir techniquement, physiquement, mentalement la possibilité d'être performant au moment voulu, parce que c'est quand même pareil, c'est un truc de fou ça.
Ouais, bah après il y a une partie du coach, hein. Il y a le coach qui fait la prépa. Moi j'applique, c'est juste. Mais après, c'est vrai que physiquement c'est le coach qui fait la prépa, et après bon, moi je suis la prépa. Après sur toute la saison je garde vraiment une bonne ligne de conduite par rapport à mon alimentation, par rapport à mon sommeil, par rapport à ma récupération. Tout ça c'est carré pour que je puisse bien enchaîner aussi, pourquoi pas faire de bonnes performances par la suite, parce que ça joue beaucoup. Mais par rapport à physiquement, c'est plus le coach qui détermine ça, on va dire. Après, c'est sûr que nous, athlètes, en tant qu'athlètes, quand on s'entraîne, on peut sentir qu'on est moins bien ou qu'on est bien. Mais physiquement, ouais, c'est plus le coach qui fait la prépa, ou par exemple les muscles, il va peut-être l'alléger quand on va arriver au niveau des compètes, il va alléger les muscles. Et quand on sera plus loin des compètes, on aura des muscles plus lourds, peut-être plus intensives, et du coup, ce qui va faire qu'on sera plus lourd que d'habitude. Et après, mentalement, c'est sûr que moi, j'avais un objectif en vue, il y avait des minima à faire. Bon, je n'ai pas réussi, mais il y avait des minima à faire. Après les championnats de France, il y avait même les championnats de France en termes de chance. Ouais. Donc, du coup, techniquement, ça c'était une compète que moi, dès le début de la saison, j'avais coché. Je savais très bien que ce jour-là, il fallait que je sois vraiment meilleur de ma forme, il fallait que je sois très très concentré, il fallait que je sois le mieux physiquement, faut pas que j'ai des pépins. Et c'est vrai que c'est un travail, il y a les athlètes, mais aussi les kinés qui sont derrière tout ça, qui nous accompagnent chaque semaine, des séances pour que lorsque j'en ai des douleurs pour récupérer, s'il y a des problèmes, par exemple je dois freiner, si par exemple j'ai une douleur quelque part, je vais peut-être alléger ma séance pour que ma douleur puisse partir. Et aussi le coach aussi qui va gérer l'aspect d'entraînement et aussi du pic de forme des séances après moi je puisse être en forme pour la compète en question.
Et le jour J, t'as un échauffement à peu près de combien de temps? T'as une routine déjà toute prête? C'est carré? C'est...
Ouais, moi j'ai c'est parce que j'ai l'habitude, j'ai une routine, j'ai mes habitudes, on va dire. J'ai mes habitudes de compète. Après mon échauffement, il dure. Ça peut durer. Si je fais un bon échauffement, je peux commencer 2 heures avant, 2 heures avant ma course. Sachant qu'il y a la chambre d'appel qui est peut-être 20 minutes avant la course.
Ouais, faut la prendre en compte.
Il faut que je prenne en compte la chambre d'appel. Donc en vrai, si je fais un bon échauffement, je vais partir 2 heures avant ma course et je vais commencer par la mobilité, par des étirements. Après, je vais faire un petit footing et au fur et à mesure, je vais commencer à monter en puissance pour à la fin, être au meilleur de ma forme, arriver en chambre d'appel du moins.
D'ailleurs, on parle de chambre d'appel. Si vous avez l'occasion d'être bénévole pour un gros événement comme des championnats de France élite pour participer à l'organisation et que vous avez la possibilité d'accéder à la chambre d'appel, c'est vraiment là où tout se passe, les derniers regards, les derniers moments avec les coachs, c'est passionnant. Si vous avez la possibilité d'approcher en plus vos idoles, quelque part de près, et puis de rendre un petit service, faites-le, engagez-vous, parce que franchement c'est une super expérience. Bon, vous, forcément, vous êtes focus, donc vous vous en rendez pas compte, toi, Jeanne et les autres. Ah ouais.
C'est surtout que la chambre d'appel, nous, par exemple, en appli, on n'a pas nos coachs.
Ouais.
C'est vraiment le moment où on est tout seul. C'est-à-dire que là, la course, la chambre d'appel, c'est vraiment où l'athlète peut gagner sa course comme il peut aussi la perdre.
Ouais, ouais.
Donc en fait, c'est l'endroit où il faut être le plus concentré, il faut être rester dans sa bulle. Parce que après, le coach, lui, il est avec nous à l'échauffement, mais après, une fois qu'on passe en chambre d'appel, on est tout seul et jusqu'à la fin de la course. Quoi.
Et comment tu fais? Tu mets de la musique, toi? Tu t'isoles? Ou alors, justement, tu essayes de jouer un peu à l'intox en essayant de regarder les autres?
Du coup, en fait, moi, ma musique, je la mets avant d'aller en chambre d'appel, parce que en chambre d'appel, on n'a pas le droit.
En haut-parleur pour faire chier tout le monde.
Non, on n'a pas le droit d'avoir des écouteurs en chambre d'appel. Du coup, après, en chambre d'appel, effectivement, je pars du principe que, en fait, la chambre d'appel, ça, c'est 20 minutes, ça va vite, hein.
Ouais.
C'est 20 minutes, mais après, on n'a pas trop le temps, en fait, de faire tout ça. Parce que lorsqu'on arrive en chambre d'appel, il faut se confirmer, il faut se préparer, il faut s'habiller, il faut mettre nos pointes. Faut après sortir de la chambre d'appel pour aller sur le stade, et en fait effectivement ça va vite, ça va très vite. En fait, on attend un petit peu, on attend quand même, mais on n'a pas le temps de faire tout d'écouter de la musique ou autre. Après la musique, ouais, je l'écoute un peu avant la chambre d'appel, à l'échauffement, pour rester dans ma bulle et pourquoi pas performer au mieux, quoi.
On doit se quitter parce qu'il y a Eve qui attend qu'on lui pose plein de questions également là d'ici 21h. La dernière question, c'est simple. C'est quoi le programme désormais? Parce que là, on va repartir sur un nouveau cycle. Est-ce que tu repars pour une saison hivernale, par exemple?
Ouais, c'est ça. Bah, là, c'est une nouvelle saison. Du coup, bah, j'ai bien coupé. Je recommence à m'entraîner. Je recommence à me préparer. Et bah, y a la saison hivernale qui va arriver. Et du coup, je repars sur un nouveau cycle de travail pour me préparer pour la saison hivernale. Et après, la saison hivernale va suivre. Parce que la saison hivernale, elle est importante, mais aussi elle peut être importante pour la saison estivale qui va suivre après.
Oui, c'est toujours un peu le tremplin pour l'été prochain. Ça, c'est évident, avec des nouvelles échéances qu'on va suivre, évidemment, nous, ici, avec RJR et Sport Club. Et donc, on va te suivre. Et puis, la prochaine fois, on essaye de se caler pour que tu viennes partager ton sourire et ta bonne humeur en studio, Johan.
Pas de souci.
Quels que soient les résultats, nul doute qu'ils seront positifs pour la suite. C'est quoi, t'as 25 ans, là?
C'est ça, ouais, donc,
maturité, pleine force de l'âge, donc je pense que des chronos qui vont descendre, il y en aura encore plein. Merci beaucoup Johan, c'est un plaisir de t'avoir avec nous ce soir, et on te souhaite une belle reprise, une belle saison qu'on va suivre évidemment dans les prochaines semaines.
Merci beaucoup,
bonne soirée,
merci, bonjour.
À toi,
soirée.
Salut merci. À toute l'équipe. Allez, hein, évidemment Alexa. 20h passées de 40 minutes, vous nous écoutez sur RJR. Passionnant cet échange. C'est vrai que c'est pas simple, je sais pas si t'as déjà vécu ça toi, Eve, la capacité à se remobiliser quand on n'est pas forcément, hors nous de l'extérieur, une bonne performance, parfois une médaille, ça nous satisfait. Puis finalement, quand on regarde un petit peu dans le ressenti très concret de l'athlète, comment c'est ce qu'on produit à l'entraînement, on n'est pas toujours super satisfait, soit de la place, soit, alors bah, pourquoi,
du chrono,
de la figure, de la réception, du nombre de points au total. Ouais. Comment on fait pour se remobiliser, se dire, bon, de toute façon, ça, c'est derrière moi, donc j'y retourne, quoi. C'est compliqué, en fait, à faire.
Oui, c'est vrai que l'après-compétition, des fois, quand c'est pas forcément bien passé, on a un peu, peut-être, un ou deux jours de mou, mais voilà, c'est passé. Maintenant, après, on se concentre sur ce qui arrive après, parce que les autres compétitions sont tout aussi importantes. Mais c'est vrai que c'est un gros travail mentalement, surtout, qu'on apprend au fur et à mesure. Et puis voilà, on retourne à l'entraînement, quoi.
Absolument, bah oui, bah c'est le principe des athlètes de haut niveau, ça switch rapidement, ouais.
Comment tu fais, toi, pour te mettre dans ta bulle juste avant de faire ton programme, juste avant, enfin, à l'échauffement, à l'entraînement, comment tu fais juste avant une compétition? Est-ce que tu as une routine particulière?
Ouais, j'ai une routine particulière aussi avant compétition. J'ai un échauffement, pareil, qui dure... Moi, j'arrive à peu près 1h15 avant la compétition pour m'échauffer. Et puis, souvent, je suis avec mes écouteurs en réduction de bruit, comme ça, j'entends personne autour. J'ai mes petites routines. Et puis, voilà, petite routine énergétique aussi. Et puis, corporelle pour être bien centré. Et voilà.
Et combien de temps ça te prend? Enfin, l'échauffement avant une compétition, tu disais 1h15 avant.
Oui.
Et il n'y a pas de chambre d'appel, du coup, pour le patinage artistique?
Non, il n'y a pas de... Enfin, ça dépend des compétitions. Les grosses compétitions internationales, s'il y a un petit endroit où on doit attendre avant qu'on nous appelle pour rentrer sur la glace pour notre 6 minutes d'échauffement. Mais pareil, c'est un endroit où, en fait, juste on est toutes là et on attend le moment. Et pareil, on se prépare, on marche, on essaye de faire descendre le stress avant de monter sur glace.
Sachant que là, pour le coup, vous savez, vous, à peu près, à quel moment vous allez rentrer sur la glace. Alors, sur le programme court, bon, bah, je crois, c'est quoi? C'est un tirage au sort qui fait le passage?
Oui, ça dépend des compétitions, mais oui, c'est tirage au sort ou alors dans l'ordre inverse des World Ranking.
Ah ouais, aussi. Et puis après, le programme libre, bon, bah, c'est dépendant du programme court.
Voilà, c'est ça, voilà. C'est en fonction du résultat du cours.
Vous avez... Bah là, c'était peut-être long, non, d'attendre?
Un petit peu, surtout avec les programmes seniors. Après, quand tu commences à passer 5e, sachant que c'est 4 minutes, plus le jugement après des juges, c'est vrai que ça fait long quand tu commences à passer 5e et tout. Mais du coup, dans ces cas-là, on se déchausse et on continue de bouger un peu au sol pour rester chaud, concentré dans sa bulle. Après, on se rechausse et puis on y retourne.
Bon, en tout cas, félicitations à la Fédération sportive des sports de glace, parce qu'on a réussi à mettre Louviers sur une carte de la France.
Oui, je connaissais pas non plus.
C'est fou. Donc il y a une patinoire.
Mais il y a une patinoire en tout cas.
Ça fait 8 ans qu'elle est là.
Ouais. C'est la première fois que tu patines là-bas?
Oui, première fois.
Ok, bon, du coup, bonne sensation.
Et t'as réussi.
Ouais, bah alors après.
Et la glace, elle est comment là?
Alors la glace, c'est pas mal. Hein. Après, ouais, vous voyez les résultats. Pareil, voilà, j'ai fait première et tout, mais moi, mes performances, je suis pas forcément.
Ouais, 136.
De ce que j'ai fait,
un peu
voilà.
Plus, ouais.
C'est la première de la saison. Bon, c'était la première depuis ma blessure aussi. Ça faisait 7 mois que je n'avais pas fait de compétition. Donc, bon, voilà, il faut bien recommencer.
Ouais, c'était un premier test.
Voilà. Non, mais là, on est chez les grandes. Voilà, bientôt 20 ans, nouveau programme. Donc, tout ça, faut l'intégrer, quoi. Faut l'encaisser, quoi.
Voilà.
Donc là, le ressenti, toi, à terme, au-delà, effectivement, du classement, parce que c'est sûr qu'on le disait tout à l'heure, bon, c'est toujours bien de gagner une compète. Mais ton ressenti, là, c'est quoi? C'est en progression?
Oui, c'est en progression. Je suis pas frustrée par mes performances que je fais parce que je savais que ça allait être un petit peu compliqué. J'étais pas prête à 100%, voilà. Et je prends plutôt ça comme un moteur pour la suite de la saison. J'ai eu beaucoup de retours des juges, de la fédération, de mes coachs, de mes chorégraphes pour savoir les choses à travailler pour être prête pour les prochaines séances qui sont plus importantes.
C'est important d'ailleurs d'avoir une prise de repère aussi avec les juges dont tu parlais il y a quelques secondes parce que finalement c'est eux qui notent et donc de se montrer à la fois en France et pour bientôt à l'international. On dit dans beaucoup de sports de notation que c'est important de se présenter face à des juges pour prendre un peu la température, quoi.
Bah oui, parce que nous, de toute façon, on est constamment jugés dans notre sport, voilà, et du coup d'avoir leur retour aussi, parce que c'est par eux qu'on est jugés, c'est bien de savoir ce qu'ils attendent de nous un peu plus et ce qu'on peut leur présenter pour que nos notes, qu'ils augmentent nos notes, quoi.
Et est-ce qu'il y a une évolution justement du code qui se fait? Ou alors non, c'est toujours pareil et puis...
Ça évolue, oui, au fil des années. Je pense qu'il y a des attentes que les juges qui évoluent, qui sont différentes.
Sur l'artistique, notamment.
Voilà, sur l'artistique. Ouais. Après, techniquement aussi, par exemple, je sais pas, mieux présenter les sauts, les fondre aussi dans la prestation, dans la note artistique, essayer de mettre plus les choses en valeur.
D'accord. Ça, c'est le travail. Que ce soit pas attendu à chaque fois.
Voilà, c'est ça.
C'est le travail de tout ton staff aujourd'hui, les gens qui t'accompagnent au quotidien. On salue Malika et tous les gens qui t'entourent. T'as senti là une capacité à upgrader, par exemple, parce que dans tes programmes, là, t'as mis des éléments qui te permettent techniquement
De gagner quelques points
scorer,
en difficulté.
Ouais.
Déjà, techniquement, mes programmes, ils ont un peu plus évolué par rapport à la saison dernière. Et puis après, aussi, j'ai fait un nouveau programme avec le programme long avec un nouveau chorégraphe, Kevin Emoz. Et je sens la différence par rapport aux autres années. Il y a plus de, peut-être un peu de recherche dans les transitions entre les sauts, ce qu'on appelle un peu les skating skills. Et je sens physiquement que ça va être à travailler parce que voilà, il y a plus de difficultés.
Ouais, du coup, ça enchaîne, il y a moins de temps mort.
Voilà, c'est ça un peu.
Margot, Martin.
Oui, par exemple, dans tes programmes là, de ce week-end, qu'est-ce que tu peux nous parler un peu de technique? Quel type de saut, en tout cas lesquels tu as préféré et quelles en sont les spécificités? Je vais y arriver.
Ah là, c'est technique. En plus, à la radio, bon courage.
Si on peut parler même d'un.
Alors moi, mon saut préféré, ça, c'est le triple boucle. C'est un saut de quart. On a des sauts de quart, on a des sauts piqués. Et c'est un saut voilà, que j'aime particulièrement faire, où on va dire j'ai beaucoup moins de difficultés que d'autres. Et
Si tu devais choisir un saut, si... Par exemple, si tu devais choisir un saut pour qui te permettrait de gagner facilement des points, tu choisirais celui-là?
Alors, je pense que...
En quadruple.
Oui, celui-là. Ah, un jour, ça me tenterait bien de le tester. celui-là, ou alors aussi le triple loot. En fait, c'est deux sauts sur lesquels je peux bien me sentir. Et puis, en fait, pouvoir apporter, par exemple, un peu plus de vitesse, un peu plus de fluidité dans le saut, apporter des entrées ou des sorties difficiles. Mais je pense que je choisirais plus le book parce que je le maîtrise bien. Et puis, je sais que je peux apporter un peu plus de difficulté dessus.
Le loot, c'est le saut où on attaque et on atterrit avec la même jambe? C'est pas ça?
Oui, après, il y en a plusieurs. On attaque avec la même jambe.
C'est le nom d'un
petit peu à la base. Celui-là, c'est bien.
Book flip loot, c'est jambe droite okay. Sur les trois.
Bien tenté, Julien.
Et donc, tu l'enchaînes avec un autre maintenant ou...
En fait, je travaille les combinaisons triple-triple. Et en fait, par exemple, je fais triple book, triple piqué. Donc, c'est des enchaînements de triple d'affilée.
C'est là où tu sens quand même la différence depuis plusieurs années. Alors bon, on oublie les blessures, c'est derrière, mais tu sens, là, t'arrives à une... On parlait de maturité tout à l'heure avec Jeanne, t'es un peu plus jeune, t'arrives à 20 ans, toi, mais on est sur des disciplines à maturité précoce aussi.
Oui, bien sûr. Ouais. Bah, c'est maintenant, et d'ailleurs, on en a encore parlé avec les juges, que c'est maintenant qu'il faut trouver sa personnalité, le petit truc qui fait que je vais me démarquer des autres patineuses, parce que, comme on dit, au championnat d'Europe, par exemple, on va être 30, techniquement, on aura tout un peu le même bagage. Et c'est vraiment la partie artistique et personnalité qu'on va amener à la prestation qui va faire le truc que les juges vont apprécier, qui vont faire augmenter un peu les notes.
Quoi. Ça va avoir son style.
Tellement dur. C'est tellement dur.
C'est ce qui est un peu le plus dur à apporter.
Ah bah dans tout. C'est comme un journaliste avec son style d'écriture. Quoi.
Justement, on se dit que techniquement, améliorer par exemple un saut, etc., on peut imaginer que le coach a toutes sortes de techniques ou peut-être d'exercices à te faire faire. Mais comment on fait pour améliorer son artistique ?
Améliorer une artistique, on peut par exemple travailler, la coach elle nous aide aussi à travailler un peu là-dessus, mais sinon on travaille avec donc des chorégraphes qui sont artistiques ou alors bien des profs de danse sur glace. On peut même travailler avec des profs de danse au sol. Faut essayer d'aller chercher travailler l'expression, essayer d'aller chercher sur plutôt des personnes qui sont plus penchées sur le côté artistique pour essayer de travailler ça.
Et tu as été associée au choix de la musique par exemple?
Oui, bien sûr. Oui. Depuis quelques années maintenant, à la fois moi et le coach, donc on propose des musiques, aussi le chorégraphe il peut en proposer, mais vraiment ça me tient à cœur que là depuis trois bonnes années, je pense que la musique que je l'aime vraiment, parce que c'est là-dessus que je vais pouvoir jouer et réussir à l'interpréter en fait, et patiner vraiment bien dessus, parce que c'est ça qu'on cherche. Si on n'est pas bien sur une musique, ça va être difficile d'aller chercher les points à gratter sur l'expression, les mimiques qu'on peut apporter et tout. Donc c'est...
Alors moi ça m'amène une interrogation, parce que si on oublie la technique qui est quand même essentielle en patinage artistique, moi je tiens pas debout sur un patin, donc je vais avoir du mal à prendre
sur des rollers, pardon,
même sur des rollers. Il y a quelques anecdotes rigolotes. Mais est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui, dans la vie de tous les jours, est un peu timide, un peu réservé, qui a du mal à s'affirmer, en fait, puisqu'on parle de personnalité, finalement, à haut niveau, il aura plus de difficultés. Il ou elle aura des difficultés.
Pas forcément, parce que...
Ça se travaille, donc.
Ça se travaille, parce que c'est... Là, pour le coup, on n'a pas besoin de s'exprimer aussi verbalement. C'est corporellement et tout. Donc, je pense que quelqu'un qui peut être timide, qui adore son sport, qui est passionné, il peut très bien être très bon en artistique sur le patinage.
La première expérience, c'était ici en Normandie. La prochaine, je le disais, c'est à l'étranger.
Oui, en Slovaquie, à Bratislava.
L'objectif, c'est quoi? C'est vraiment de... Quelle que soit la position, là, c'est vraiment de travailler sur tes acquis, là,
et
de montrer un peu aux juges, justement, internationaux.
Ouais, là, on va essayer d'aller crescendo sur l'amélioration des programmes pour être prête à 100% sur le Grand Prix de Angers. Mais donc là, ça va être ma première Challenger série en senior. Donc ça va être de commencer à vraiment montrer des programmes mieux patinés, plus propres, et puis rechercher ce petit truc de personnalité en artistique, justement, dont je vous ai parlé avant.
On est obligé d'en parler, parce qu'on a reçu la semaine dernière Laurine qui a annoncé qu'elle faisait une saison blanche. Elle nous a expliqué qu'elle allait toujours t'encourager, te soutenir, etc.
Elle viendra demain soir d'ailleurs.
Voilà. c'est une expérience, j'imagine que vous échangez beaucoup, après chacun a son parcours, mais c'est une expérience qui t'est utile, toi, de voir un peu son parcours, son évolution, avec un peu des différences, un peu d'écart.
Avec Laurine, on a évolué ensemble. Bien évidemment, moi j'ai pas encore participé au championnat d'Europe, championnat du monde senior, en junior oui déjà. Donc on discute là-dessus sur la pression et tout, mais en fait, peu importe la compétition, j'ai envie de dire, on ressent les mêmes choses.
Ouais.
Donc
après, vous avez pas la même personnalité.
Oui, non, pas du tout.
Mais dans l'approche, peut-être que tu peux aussi te dire, elle a fait comme ça, moi je verrais peut-être les choses différemment dans les attentes qu'on peut avoir sur moi, sur la pression qu'on se met tout seul parfois d'ailleurs.
Ah oui, c'est sûr que de toute façon, tout le monde, mentalement, on est vraiment différent. Enfin, tout le monde est différent, je veux dire, mentalement, on a chacun un travail, parce qu'on n'a pas, par exemple, les mêmes blocage mentalement sur une compétition, l'aborde quelque chose. Donc on a notre travail personnel dessus. Là-dessus, on va pas échanger vraiment trop sur ça, quoi.
C'est courageux, selon toi, la décision qu'elle a prise. Nous, elle nous en a fait part à l'antenne. Elle a parfaitement verbalisé son choix et ses raisons. Mais il fut un temps où c'était encore difficile de se dire, bah moi, la pression, j'en ai marre, je suis trop fatiguée, j'ai envie d'aussi vivre ma vie de jeune femme, etc. On aurait pu considérer ça comme une forme de fragilité. Aujourd'hui, c'est une forme de respect de se dire, bah tiens, il y a quand même un courage de verbaliser une émotion. Comment toi, tu l'appréhendes?
Oui, je pense que c'est courageux de ta part, mais puis en vrai, dans tous les cas, Laurine, elle a un peu participé à toutes les compétitions qu'on pouvait participer en senior. Elle a fait le championnat d'Europe, le championnat du monde, maintenant les Jeux Olympiques. Donc, elle a un peu atteint son apogée, enfin ce qu'elle voulait atteindre, ce qu'elle voulait faire dans le patinage. Donc oui, ça reste une décision que je trouve cohérente même de sa part, parce qu'elle trouvait que voilà, elle avait beaucoup de pression ces derniers temps, enfin, c'était un petit peu compliqué mentalement aussi. Donc c'est une décision, oui, courageuse et je pense cohérente sur la fin de saison et comment ça s'est terminé.
À ton tour du coup.
Exactement.
Non mais c'est vrai, sans dire ça libère une place, mais c'est vrai que quand on est sur la glace, bah toutes les autres c'est des adversaires.
Bah hein, oui,
donc
c'est sûr.
Donc voilà, mais c'est inspirant aussi de se dire bah en fait je viens du même endroit, j'ai bossé avec la même équipe quasiment et donc je peux faire le même parcours.
Aspirer aux mêmes choses, bien sûr.
On te le souhaite. Hein. Le point commun, c'est que vous êtes toutes les deux passées par RGR avant, donc c'est parfait. Martin, Margot, sur le sujet d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'on l'a entendu, je crois que c'était jeudi dernier sur, sur RGR, mais c'est vrai qu'on en a de plus en plus hein, des athlètes dans tous les sports, en tennis beaucoup aussi, il y a des gens qui font des pauses, qui reviennent ou pas d'ailleurs derrière. Bon, bah, c'est des décisions qui ne sont pas simples à prendre, parce qu'on a aussi parfois peur de décevoir.
Oui, alors je sais qu'au haut niveau, les athlètes sont plus ou moins prêts, parce qu'ils ont des personnes pour les aider, ils ont des outils, des personnes. À l'INSEP, il y a plein de préparateurs mentaux, il y a des psychologues. Après, dans les clubs ou dans les fédés, c'est un peu moins structuré. Donc, j'ai envie de dire, c'est à chaque athlète de construire un peu son environnement qui peut le préserver. Est-ce que vous êtes assez aidé pour justement arriver à construire cet environnement qui vous protège, en fait?
Ah, mais les attentes sont tellement grandes. Elle a participé à la plus grande compétition planétaire, donc en fait elle représente un pays, même si on la connaissait pas 3 minutes avant qu'elle monte sur une glace, les gens qui se sont retrouvés derrière la télé, bon ben forcément je me mets à la place de Laurine, toi tu sais pas qui te regarde à la télé, mais tu indirectement je pense, enfin je sais pas vous comment vous le vivez quand vous êtes sur la glace, même si c'est pas à l'échelle du pays, mais les proches, les gens du club, etc., quand on rentre sur la glace, des fois on se met une forme de pression parce qu'on a cette responsabilité là de représenter la famille, les clubs, les copains, le pays. Donc ça représente une forme de pression qui n'est pas simple à gérer en vérité.
Oui, oui. Et puis je pense qu'il y a aussi, bon, j'ai jamais fait de sport à haut niveau, j'en ferai jamais, mais je pense qu'il y a aussi certaines disciplines qui ont encore plus, qui font, comment dire, qui participent plus à mettre la pression, qui ont plus de pression.
Bah déjà, en fait, c'est un sport individuel, voilà, donc en fait, il n'y a que toi qui maîtrises ce qui est en train de se passer.
Il y a de l'artistique, il y a du technique, c'est une prestation que tout le monde va regarder, on te juge, enfin, c'est hyper, enfin, pour moi, il y a une pression qui doit être énorme. Enfin,
oui, c'est clair.
Donc j'imagine que déjà, dans l'approche et dans le fait aussi qu'on parle de, tu disais, maturité précoce, etc., dans ce genre de milieu. En fait, je pense que tout ça fait qu'à un moment, vous êtes jeune et à un moment, peut-être certains se posent des questions sur j'ai donné peut-être toute mon enfance, toute cette adolescence à ce sport et maintenant j'en suis là et alors et après. Et à la fois, en patinage artistique, je crois, il y a une américaine, Alyssa Liu, qui, elle, a aussi fait 2 ans d'arrêt et revenue. A gagné les JO.
Voilà, elle a tout gagné.
Si je ne me trompe pas. Et là, elle refait une pause pour revenir mieux ensuite. Donc en fait, ça marche aussi comme ça, peut marcher comme ça. Et c'est aussi une problématique actuelle, c'est ces saisons blanches, parce qu'on parle de plus en plus de bien-être mental, de santé
personnelle, tout court.
Et en fait, finalement, c'est peut-être qu'avant, les sportifs, ils arrêtaient parce qu'ils étaient épuisés. Et peut-être qu'aujourd'hui, avant d'être épuisés, ils font plus de saisons blanches pour mieux revenir ou pas.
Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs au moment où tu rentres sur la glace, tu fais tes petits tours, là, le temps que les gens finissent d'applaudir, et d'un seul coup, silence total, les premières notes vont démarrer de la musique. Toi, t'es fixe parce que tu vas démarrer ta choré. Est-ce qu'on débranche le cerveau à ce moment-là?
Oui, en fait, on est un peu connecté avec la musique et on essaye de se recentrer, de, en fait, de ressentir ce qu'on peut, bah, par exemple, si nos entraînements se passent très bien, ressentir ce qu'on a pu ressentir à l'entraînement, essayer de retrouver les mêmes sensations. Mais oui, en fait, on déconnecte total du public qui applaudit, même pendant le programme.
Mode robot, des fois, un peu. Il faut rechercher les automatismes.
Pendant le programme, ça, en fait. Des fois, j'entends pas les gens qui applaudissent ou qui disent des trucs.
En fait, tu retrouves les sensations que tu connais.
Voilà,
enfin,
c'est ça.
Tu les recherches.
C'est, c'est ça qu'on recherche et on déconnecte un peu de ce qui se passe autour. On est vraiment concentré sur la presta. Quoi.
Et j'aime bien poser cette question-là parce que il paraît que ça arrive au moins une fois à chacun d'entre nous. L'effet de zone, c'est-à-dire ce moment où on a l'impression d'être dans un moment un peu coton où il y a rien qui peut nous arriver.
Ouais, des fois, ça ouais. Et puis aussi, des fois, en fait, ça nous arrive que on commence, mais un peu machinalement, on se dit ah ouais, c'est maintenant en fait. Par exemple, en fait, t'es des fois, t'as même un peu ce petit truc qui fait que t'es pas trop là. Et là, en fait, après, tu te reconnectes vraiment dans le truc.
En fait, je viens de passer mon loot là. Non, mais c'est vrai qu'il y a des moments où on perd un peu. Et à la fin, par contre, on se reconnecte un peu avec une forme de réalité. Puis on regarde le tableau des scores, quoi.
Et pourtant,
c'est
là, des fois,
c'est toujours ces moments très longs.
Ouais, pourtant, des fois, tu dois rechercher quand même des repères visuels ou des choses comme ça sur la glace, non?
Pas spécialement, parce qu'en fait, le tour, c'est différent de chez nous. Bah, déjà, il y a les juges, il y a tout le public. La patinoire n'est pas la même aussi. Le seul point de repère qu'on peut avoir, et encore, c'est pas partout pareil, parce que dans les grandes compétitions, il n'y a pas de marquage sur la glace, elle est toute blanche. Donc, en vrai, il n'y a pas trop ces repères-là qu'on peut avoir. Mais c'est
tu recherches des fois le regard des juges, peut-être, des fois.
Oui, aussi, pendant la prestation, on les recherche. Mais on essaie de pas trop, quand même, aller sur eux et rester concentré sur nous. Mais... après, c'est pour ça que dès les premiers entraînements, faut vraiment se faire à la glace, se faire à l'environnement. Pour qu'à la compétition, on arrive, c'est pas genre découverte de la piste et découverte de tour, c'est des entraînements. On cherche à bien apprivoiser le lieu, quoi.
Ça veut dire qu'au quotidien, Eve, la correcte, tu travailles,